fous, je m'ennuie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Une bonne idée sortie?
C'est super.
L'interview du jour.
48 FM.
Bonjour, Giuseppe, je suis artiste-auteur, dessinateur, scénariste, voilà. Et je suis ici pour monter une exposition des chroniques du Gévaudan avec mon ami Christophe Chaumette.
Bonjour, donc Christophe Chaumette, auteur, comédien, qui dirige Théâtre Samouraï et qui collabore depuis maintenant plus de 11 ans avec Giuseppe sur ce projet des chroniques du Gévaudan et qui va maintenant apparaître du 30 juin au 26 août à la Maison Consulaire de Mende, tous les jours de 14h à 20h pour une grande expo, 250 mètres carrés d'expo et plus de 300 pièces, des images et des objets avec un cabinet curiosité autour de la bête.
Alors vous en avez déjà dit beaucoup, déjà bonjour à tous les deux. De quoi part tout ce travail? Ça fait beaucoup d'années que vous êtes dessus, hein?
Oui, ça fait 10 ans en fait qu'on a commencé à travailler sur l'histoire de la bête du Gévaudan. Et donc, on a mis beaucoup de temps à trouver notre propre approche de cette histoire. Donc là, ça y est, c'est fait. Et donc, on aborde tout ça comme nul autre ne l'a abordé, c'est-à-dire de façon très humaniste, loin de toutes les théories. On ne veut rien solutionner, que le mystère reste totalement entier. Et par contre, on va vous proposer une véritable machine à remonter le temps pour une téléportation au XVIIIe siècle sous le règne de Louis XV en Gévaudan.
Cette exposition, elle s'inscrit dans le cadre d'une tournée. Vous avez déjà exposé pour la première fois à Aurillac. Pourquoi c'est pas la Lozère qui a été la première à accueillir cette exposition?
Au départ, c'est ça le principe. Sauf que on a été obligé d'ajourner l'exposition parce qu'en fait, à Mende, on a enclenché le processus d'expo en 2018 avec Monsieur le Maire de Mende, et on a été obligé de tout bloquer à cause du Covid. Et donc, on a attendu que ça se calme pour monter cette exposition dans de bonnes conditions. Et puis sur ces entrefaites, en fait, le festival de bande dessinée d'Aurillac, j'ai été son président, invité d'honneur cette année. Et la ville d'Aurillac nous a proposé d'occuper le centre d'art contemporain des écuries. Donc évidemment, c'est un peu difficile de refuser. Et donc on s'est dit, profitons de cette invitation pour monter l'exposition en première version et de tester. Voilà. Et donc, on a monté une première monstration de 250 mètres carrés qui est restée un mois ouverte au public. Et il y a eu 4400 personnes qui l'ont visitée en un mois, en mars.
Vous n'avez jamais vu ça?
C'est du jamais vu là-bas. Et donc, en fait, c'est très bien parce que nous, ça nous a permis, à Mende, c'est la monstration Grand Chelem, là. On ne l'a jamais montée telle quelle, c'est ce qui a été prévu depuis le départ. Et la version qu'on a montée au RIA, qui était incomplète, entre guillemets, déjà très bien achalandée, mais là, on tape beaucoup plus haut. Donc on monte à 300-350 pièces. Hein. Donc on rajoute quasiment 80 pièces par rapport au RIAC, hein, sans problème, plus du son, etc. Et donc à Mende, l'idée, c'est qu'on démarre du pays. Voilà, donc on démarre de Mende, réellement, en fait, voilà.
Donc vous l'avez dit, hein, tout part d'un travail sur une bande dessinée. Elle va sortir quand? Parce que c'est très bientôt, mais est-ce qu'on a la date ou pas encore?
Ouais, c'est deuxième partie d'année. Là, de toute façon, ce sera après fin d'année pour Angoulême, obligatoirement. Et là, on fait un peu les choses à l'envers, parce qu'en fait, on ne peut pas tout faire. L'exposition a demandé un travail énorme. C'est un travail complémentaire au livre. Il y a plein de pièces inédites.
Des textes inédits,
enfin, voilà. Et la forge du livre, elle est distincte de la forge de l'expo. C'est deux forges différentes, parce qu'on parle vraiment de forger un contenu, là. On rigole pas du tout, hein. C'est très, très prenant. Et donc, là, maintenant, tout le livre, il est écrit. Il faut que je termine de dessiner, mais ça me prend du temps. Et ensuite, on va sortir un premier opus d'accompagnement du premier livre. Et donc, on va sortir une sorte de rétro-catalogue de l'exposition sous forme de hardbook, parce que tout le travail qu'on a fait pour l'expo sera pas dans le livre.
Ouais. On nous a demandé, en fait, aussi, beaucoup de gens qui sont venus voir la première version de l'exposition, Aurillac, nous ont demandé les textes, par exemple, tellement c'est fourni et riche. Et surtout, ça nous amène à un angle, justement, de proposition sur la bête, encore une fois, sans choix théorique, mais en laissant un maximum d'infos au futur lecteur pour essayer de s'immerger. C'est vraiment cette vision-là, de s'immerger dans ce récit. Et l'expo est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a développé les choses. On va faire comme un labyrinthe. Les gens vont rentrer dans la tanière de la bête avec l'exposition tout cet été. Et le livre sera un petit peu de cet ordre-là dans l'avenir aussi. Et donc, on a scénarisé tout le parcours. On a comme un parcours, comme si on rentrait dans une sorte de grotte étrange avec des objets, des images. Et puis, il y a du son qui a été fait par un collègue
Alexandre
à nous,
Pividal.
Alexandre Pividal, qui est sur Toulouse. Bien sûr, mais qui est une création, j'allais le faire, qui est une création incroyable, avec un univers sonore tourné autour de la nature, et une autre version spécifiquement qui arrive pour Mande, qui est une voix et qui sont des lettres d'époque, qui sont issues de notre travail d'écriture. Voilà. Et de l'autre côté, on a aussi tout mis en lumière pour mettre en valeur un certain nombre de pièces, d'images et d'objets. Donc on a évidemment glané depuis une dizaine d'années des dizaines, voire plus d'objets,
des centaines.
Donc ça va évidemment des fusils canons double silex de l'époque, d'épées d'époque qu'avait par exemple le capitaine Duhamel des volontaires de Clermont-Prince, en passant par des objets de la vie du quotidien, comment les gens vivaient à l'époque, comment les gens se déplaçaient à l'époque, comment les gens s'éclairaient à l'époque. Et ça, c'était un travail.
Dans quoi ils buvaient, dans quoi ils mangeaient.
Exactement.
Enfin, voilà quoi.
Donc ça a été aussi tout un travail depuis des années de recherche sur le territoire, sur le terrain, de recherche aussi graphique, picturale, comment les gens vivaient à l'époque. J'adore le fait que Josépé, par exemple, dans son dessin très contemporain, efface ce travail historique. En général, c'est pas ton univers, t'es un peu post-apocalyptique, toi. Voilà, et futuriste. Et là, en fait, c'est un travail complexe, mais il utilise des encres de l'époque, le sépia. Et ça, c'est quand même passionnant que la BD soit cet art-là qui permette, je dirais, l'aujourd'hui et l'hier, et en faisant quelque chose qui soit trippant.
Pourquoi avoir voulu faire une expo? Qu'est-ce qu'elle amène de votre travail autour de cette bande dessinée, en fait? Pourquoi il fallait absolument faire cette exposition qui, comme vous l'avez dit, ne donne pas d'aperçu concret finalement de ce qu'on va voir dans le livre, mais il y a une recherche d'objets, vous êtes parti là-dessus, donc c'était pour rendre compte de ça concrètement, et c'est aussi sur votre travail à vous d'illustrateur.
En fait, la première réponse que je peux faire, et Christophe il aura d'autres choses à dire aussi, c'est que, un, déjà, quand on fait un livre, les expositions liées à la bande dessinée consistent à mettre des planches au mur. Or, de mon point de vue, montrer la bande dessinée, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce qu'un livre et des pages d'un livre sont pas faites pour être lues sur un mur, dans un lieu, dans une expo. Ça a aucun intérêt en soi. Un livre, c'est quelque chose qui est intime. C'est quelque chose que tu vas lire toi, tu te mets dans ton canapé, un petit éclairage et tu bouquines. Tu lis un truc, tu pars en immersion. C'est vraiment un objet intime de voyage, quoi. Tu t'extrais du... Et donc, ça veut dire que, en fait, quand on monte une expo à partir d'un bouquin, eh ben là, il faut aborder les choses complètement autrement. Et en l'occurrence, pour nous, le plus intéressant, c'est de vous faire rentrer vous dans les coulisses du livre, donc dans ce que vous ne verriez jamais. Les originaux, le matériel à dessin, les cases avant qu'elles soient montées en planche pour faire le bouquin, ça tu les verras jamais. Les objets c'est pareil, ils nous servent à nous de documentation pour étayer notre récit et le dessin, mais en dehors d'une exposition tu ne les verras pas. Et même dans un livre, on va faire un catalogue là pour l'exposition, par la suite, etc. On va mettre des photos des objets, mais c'est pas la même chose que quand tu les vois devant toi.
Tu
vois, voilà. C'est pareil, pour nous, une exposition, ça se monte pas. La référence, c'est les grandes expos qu'on voyait à la fin des années 80 à Angoulême. Voilà, avec Christophe, on y allait.
Et on était gamins, on avait 12, 13 ans, 14 ans, et tout à coup, on a découvert l'expo Bilal, où tu rentres dans les cases de la bande dessinée. Tardi, où il a recréé les tranchées de 14-18 avec ses personnages. Et évidemment, la plus emblématique pour nous, ça a été François Bourgeon, qui reconstituait la cabine de bateau des passagers du vent, qui racontait cette histoire du triangle.
François Bourgeon, voilà, qui est l'auteur par excellence de la bande dessinée historique. C'est-à-dire, c'est l'auteur qui a poussé les recherches historiques le plus loin. Ça, c'est très clair. Voilà.
Et là, en fait, en
c'est
gros...
C'est une vraie référence pour nous.
Évidemment. Et justement, pour dire qu'en fait, là, l'idée, c'est que les gens vont venir et c'est comme si à chaque recoin, la bête pouvait surgir, mais tout en étant très... Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a de l'univers sonore, de la lumière et mille et un indices où chacun va faire son parcours face à cette histoire.
Oui, parce qu'on ne révèle rien, c'est pas ça l'idée.
Non.
Mais donc du coup, dans cette exposition, on est plus plongé dans l'univers du livre ou plongé dans votre propre processus créatif ou les deux?
Dans les deux.
Ouais.
Dans les deux, parce qu'en fait, c'est la quatrième dimension du livre. Donc on part du matériel du livre aussi, voilà. Et en même temps, c'est nos coulisses.
Voilà. Donc là, par exemple, on va faire des installations murales avec des dizaines et des dizaines de recherches, de crayonnés, de personnages, de recherches, etc. C'est lié au livre. J'ai été obligé de faire ce travail de recherche de personnages, de croquis, qui est toujours en cours. Hein. J'ai pas fini. Hein. C'est pas parce que c'est au mur que c'est fini du tout. Ça n'arrête pas. Mais si tu veux, tu les verras pas dans le bouquin. C'est le travail de coulisses, quoi. Voilà, préparatoire, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est les deux. Voilà.
Et comme des objets, par exemple, pour aller très loin dans les choses qui ont été singulières, parce que c'est quand même 10, 11 ans de compagnonnage et de travail acharné. Mais par exemple, à un moment, des objets ont fait évoluer le récit, tellement ils ont été extraordinaires dans ce qu'ils pouvaient raconter. Et donc ça, c'est aussi la puissance de la rivière. Et comme on va des fois sur le terrain ou des endroits où la bête est passée, où on a rencontré des descendants de gens, et ça, tout à coup, c'est des choses extraordinaires parce que ça nous nourrit. Mais les objets ont une puissance de récit phénoménale
évocatrice.
Et les montrer au public est quand même précieux.
Voilà. Et finalement, parce que peut-être qu'on peut peut-être aborder sans en dévoiler non plus le contenu concret, mais cette BD, c'est un peu aussi une enquête qui est menée, même si...
Ouais,
voilà. Et là, c'est aussi votre propre enquête à vous, en fait, que vous rendez en compte vis-à-vis de cette exposition.
La forme du récit, en fait, c'est, repose en fait sur une forme d'enquête, oui. C'est-à-dire, en fait, il y a un jeune gars qui s'appelle Pierre Delombre, qui a 18 ans à l'époque, et en fait, qui est né en Gévaudan, à Langogne. Ses parents ont une filature là-bas. Et en fait, il est lettré, le gars. Et en fait, il est parti en apprentissage au Courrier d'Avignon. Il dessine aussi beaucoup. Et donc, il est parti en apprentissage au Courrier d'Avignon. Et quand les premières l'affaire de la bête se déclenche et qu'il y a les premières attaques, etc., le Courrier d'Avignon, c'est une gazette, c'est le journal de l'époque, quoi. Il y avait pas autre chose, quoi. Hein. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas tout ça, pas de télé. Il n'y avait que dalle. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas...
48 FM n'était pas là.
Il n'y avait pas d'eau courante non plus, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, en fait, le Courrier d'Avignon a besoin d'informations. Et c'est très compliqué d'obtenir des infos. Et donc, en fait, ce jeune gars, il va remonter. François Morenas du Courrier d'Avignon va lui demander de remonter dans son pays. Donc de revenir au pays et avec pour mission de glaner des infos parce que il n'arrive pas à en avoir et en plus il y a une forme de pression du pape via Avignon etc parce que le Gévaudan à l'époque c'est quand même une sorte de principauté papale hein. Ça n'appartient pas au roi, ça appartient au pape et donc il y a des pressions diverses et variées pour avoir des infos et pour savoir ce qui se passe, parce que manifestement, c'est assez grave. Et donc, ce gars, Pierre Delombre, revient au pays pour ça. Donc, c'est une enquête. Et si tu veux, en gros, parce que ça fait pas mal d'années qu'on pitche le truc, en gros, la forme de récit, ça ressemble un peu à la forme de récit d'Apocalypse Now. Apocalypse Now, c'est un récit, il y a des formes de récit. Et en l'occurrence, Apocalypse Now, c'est un récit en forme de fleuve. Et spécialement de remontée de fleuve, vers l'autre monde et vers la folie. Et là, en fait, on ne va pas remonter le fleuve, on remonte le pays vers l'autre monde. Voilà, c'est un peu ça le pitch, si tu veux, au travers de tous les événements qui se sont déroulés, mais aussi de tout le parcours de Pierre Delombre, en fait, qui est quand même un jeune gars et qui va prendre cher. Parce que, mine de rien, pour lui, ça va vraiment pas être simple, ça va être rude. Parce que
l'affaire est rude, de toute façon.
Et l'affaire est vraiment rude.
Elle n'est toujours pas résolue à l'heure actuelle, donc voilà. Ça veut un peu tout dire.
On en sait un peu plus si on vient voir l'expo.
Voilà, c'est aussi l'idée. Est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde, même aux tout petits, ou ça fait un peu trop peur?
Non, en fait, on part du principe que ça s'adresse à tous.
Comme la BD.
Quand on a monté la première version de l'exposition à Aurillac, aux écuries d'Aurillac, il y a des écoles, des scolaires qui sont venus, il y a des parents qui sont venus avec des minots. Faut pas croire que les enfants, en fait, eux, les trucs qui font peur, ça les éclate. C'est les premiers que ça éclate. Nous, on aurait des scrupules parce qu'on se dit « Ah ouais, mais ça va leur faire bizarre, ça va être too much ». En fait, non, pas du tout, ça les éclate. Et puis surtout, les objets, ça marche super bien. Hein. Et donc, en fait, ça s'adresse vraiment, c'est ouvert. Chacun vient y faire sa popote là-dedans. Les gens peuvent rester le temps qu'ils veulent dedans. L'entrée est gratuite.
Voilà, c'est même ouvert le dimanche, c'est ouvert de 14h à 18h, donc tous les jours, dimanche inclus, sauf le lundi. Et donc, en fait, après, vous pouvez venir et revenir, parce qu'en une fois, vu ce qu'on met dans l'exposition, vous allez pas avoir le temps de tout lire, de tout percevoir. Donc en fait, faut se sentir libre de revenir, de refaire sa petite popote là-dedans.
Répondre, souvent des gens, pas que des enfants d'ailleurs, se sont mis à dessiner sur le livre d'or. Et voilà. Ils ont envie d'une chose, c'est dessiner et continuer les recherches. Ouais. Donc c'est passionnant pour nous, on a gagné quoi.
Pour rivaliser avec Giuseppe peut-être.
Ah, ça, après c'est sympa, tout le monde dessine, c'est cool, moi ça me va très bien.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc vous avez déjà tout rappelé, mais je le fais quand même pour la radio, on a l'habitude de faire ça. Donc l'exposition donc, démarre le 30 juin à Mende, maison consulaire, c'est jusqu'au 27 août. Donc c'est une plongée immersive dans l'univers de la bête à partir de votre travail sur cette BD qui va bientôt sortir. Premier tome d'une trilogie qui va paraître aux éditions Bello Loco.
Merci beaucoup.
Grand merci.
À bientôt.
Merci.